ce 5 janvier, à la veille de la fête du bienheureux frère André, il est normal que l'on consacre toute l'heure à ce frère André qui est bien méprisé par beaucoup de gens, mais admiré par beaucoup d'autres aussi. Et j'aimerais bien, ça va surprendre peut-être certaines personnes, moi qui ai réalisé rencontres à la télévision pendant 20 ans avec de grands intellectuels et des grands savants, au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, je dois m'identifier. Et alors, donc, à la télévision, j'invitais de grands savants, etc. Et voilà qu'aujourd'hui, je vais parler d'un humble frère, le frère André, qui a été méprisé, même à l'intérieur de sa communauté, par certaines personnes qui ne le comprenaient pas, et c'est normal, et c'est pas, je suis pas le seul à le dire, hein. Dans un très beau petite brochure intitulée simplement « Le frère André », le curé actuel de Saint-Germain-d'Outremont, le père André Legault, raconte un peu ces événements difficiles dans la vie du frère André, mais aussi les choses absolument admirables, et je ne saurais trop vous recommander, si vous n'avez pas grand temps, de tâcher de vous procurer à l'oratoire Saint-Joseph cette brochure d'une trentaine de pages intitulée « Le frère André » par le père André Legault de la congrégation de Sainte-Croix, qui est très connu comme spécialiste de la Bible, etc. On le connaît aussi, je regrette de le dire, par son frère, le fameux père Legault, qui était très connu dans le domaine du théâtre et de la télévision, n'est-ce pas? Et alors, le frère André, on en a beaucoup parlé, on a écrit beaucoup à son sujet. Il y a un bouquin assez important de Micheline Lachance, publié aux Éditions de l'Homme. C'est un ouvrage considérable, de plus de 400 pages, avec des illustrations assez intéressantes d'ailleurs, où on peut suivre la vie de cet homme, le frère André, de son vrai nom Alfred Bessette. J'ai le plaisir de dire que je suis un peu apparenté à lui parce que mon arrière-grand-mère maternelle venait du même village que lui et s'appelait Bessette. Il est probable donc qu'ils aient quelque chose, je l'espère, en commun. Et puis, il y a aussi ce livre qui a été traduit en français de Alden Hatch, « Le miracle de la montagne ». C'est l'histoire du frère André et de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. C'est aussi très bien fait. Il y a quantité de chroniques et de brochures sur le frère André. Il y a même les Fioretti du bienheureux frère André par Monseigneur Chimichella. Oh, il y a tellement de choses. On en parle même dans des ouvrages publiés en France. Et on dit aujourd'hui dans le Prions en Église, plutôt demain, n'est-ce pas, samedi le 6 janvier, Alfred Bessette, né en 1845 à Saint-Grégoire d'Iberville, près de Montréal, reçut le nom de frère André en entrant dans la congrégation de Sainte-Croix, portier au collège Notre-Dame, ce collège qui est situé juste devant l'oratoire, n'est-ce pas? Il construisit au flanc du Mont-Royal un oratoire en l'honneur de Saint-Joseph, qui attira bientôt des milliers de pèlerins, des centaines de milliers de pèlerins. Jusqu'à sa mort en 1937, le frère André fut, pour les blessés de la vie, un agent privilégié de la miséricorde de Dieu. Et ce ne sont pas que des mots, hein. J'avais moi-même, je dois l'avouer, une espèce d'indifférence à l'égard du frère André. Je ne le connaissais pas vraiment. J'avais lu autrefois des choses et j'étais indifférent. Oh, je me disais, c'est surfait tout ça. Ça n'a pas de sens, ça peut pas être vrai. Ça se passait au temps de Jésus, des choses aussi merveilleuses. Comment tant de miracles peuvent-ils se produire ainsi par l'entremise d'un petit Québécois de rien du tout qui vient de la campagne, qui a été un homme sans instruction, sans guère de formation, qui, avant d'entrer chez les frères de Sainte-Croix, n'était sans foi rien. Comment croire qu'on puisse modeler sur un homme comme ça? Quand, pour ma part, j'étais licencié en philosophie, bachelier en bibliothéconomie, ex-bibliothécaire au Grand Séminaire de Montréal pendant 5 ans, réalisateur à la télévision de Radio-Canada, etc., etc., etc. Et so what, comme on disent les Anglais. Car en suivant les sentiers de sa vie, on voit beaucoup de souffrance, et ça nous prend, nous aussi, au cours de notre vie, la souffrance. Mais on voit chez lui la sérénité, le sens de l'humour, comme Saint-Philippe Néri, dont je vous avais parlé et que vous avez bien étonné, Saint-Philippe Néri, par son humour extraordinaire. Bien, le frère André a cet humour, a eu cet humour, et je suis sûr qu'au ciel, il l'a toujours. Et cet humour, cette sérénité, lui venait d'une grande confiance, une très grande confiance. Il était étonnant, absolument surprenant. S'il y a eu des saints qui étaient sévères, sous certains rapports, comme Saint Jean de la Croix, il y a des saints comiques. Je vous ai dit, Saint-Philippe Néri. Il y a des saints stupéfiants aussi, comme Saint-Vincent Ferrier. C'est une vie absolument phénoménale. Ou sage, profond, comme Saint-Thomas d'Aquin. Ou d'autres qui ont des âmes d'enfant, comme Saint-François d'Assise. Mais frère André avait une âme d'enfant. Mais il n'y a jamais eu de saint triste. Avez-vous remarqué que, au fond, tous nos saints ont toujours une joie profonde, de différentes façons. Et ça s'explique, dit le père André Legault dans sa brochure, il dit, « Il y a tant de bonheur et d'affranchissement quand on se donne au service de Dieu. » Et le frère André, pour sa part, était un saint rieur, hein. Il était jeune de cœur, et même à 90 ans, hein, il suivait la consigne de l'Évangile, là, qu'il fallait redevenir pareil à de petits-enfants. Ça rit toujours des enfants, hein. Et lui, il est toujours demeuré, ses petits yeux à demi fermés sont remplis de rire. Je l'ai connu, le frère André. Je suis allé le voir deux fois avec ma mère. Mais j'avoue qu'il était peut-être un peu de mauvaise humeur l'une des deux fois. Mais l'autre fois, il était justement un peu riant. Car il y avait des moments de mauvaise humeur, oui. Et le frère André n'aimait rien tant que plaisanter. Un jour, il est allé parler à des bonnes religieuses, puis il leur a dit, « J'ai brossé toute la nuit. » Et je suis allé communier. Brosser, ça voulait dire qu'il avait fait du ménage, brosser le plancher. Et ça, se sont restés stupéfaits. Parce que brosser, je l'explique en langage québécois, ça serait prendre une brosse, c'est-à-dire se boire toute la nuit. Et il y a une visiteuse qui était venue voir son enfant au parloir, puisqu'il était portier au Collège Notre-Dame. Puis là, cette visiteuse s'alarmait de trouver le portier si changé. Alors, il y aurait répondu, toujours avec son sourire, « Ce n'est pas surprenant, je me change toujours soigneusement le dimanche. » C'est un petit humour, mais il faisait des bons tours aussi. Il est surpris, une pauvre dame, sans qu'elle s'en soit doutée, elle volait des fruits à un pommier de l'oratoire. Alors elle est venue solliciter la guérison de ses maux d'estomac, bien rétorqué. Avec un petit air apitoyé, car il était un peu comédien. « Frottez-vous avec la médaille de Saint-Joseph. » Et puis, avait-il poursuivi, malicieux, « Mangez des petites pommes vertes. » Il racontait cette histoire avec beaucoup de plaisir. Il l'avait aimé, cette blague. Je pourrais vous en raconter bien d'autres. Oh, mon Dieu. À une fille, d'ailleurs, qui était la septième de sa famille. Vous savez, la septième fille, le septième garçon espérait toujours avoir un don de guérison. Alors cette septième fille vient le voir, puis elle sollicite de lui un don qui lui reviendrait en tant que septième fille. Alors il lui dit, priez fort Saint-Joseph pour qu'il vous accorde le don d'intelligence. Que d'humour un peu cruel, un peu méchant, mais sympathique. Hein? Mon Dieu... Il goûtait aussi un conseil de Thérèse d'Avila qui n'aimait pas les saints renfrognés. Elle disait, « Mes filles, ne soyons pas bêtes par surnature, nous qui le sommes tellement par nature. Hein. » Et c'est vrai que c'est pas facile d'être un être humain, on est souvent un peu bête. Et Thérèse d'Avila avait bien raison, faut pas être bête par surnature. Quand on vit dans le monde spirituel, il faut être normal, intelligent, équilibré. C'est ce qu'était le frère André, qui était admirable. Et quand on pense à lui... C'est l'image de l'oratoire Saint-Joseph, hein, qui surgit à notre mémoire. Cet oratoire que l'on voit de loin, appuyé contre le Mont-Royal, attire chaque année des centaines de milliers de pèlerins. C'est un des grands phénomènes spirituels du monde entier. Nous vivons autour de cet oratoire et nous ne pensons pas assez jusqu'à quel point C'est un événement, un phénomène religieux populaire extraordinaire. Une visite à l'oratoire, d'ailleurs, ça permet à bien des gens de répondre à un besoin profond, qui est de s'approcher, de visualiser, d'expérimenter le surnaturel, comme dit quelqu'un qui a écrit au sujet du frère André. Car l'édification de l'oratoire Saint-Joseph a été remplie de difficultés de toutes sortes. L'idée de bâtir une chapelle à Saint-Joseph était venue au frère André dans la prière. Il a eu ensuite à convaincre ses supérieurs de la valeur de ce projet. Il n'a pas reçu d'eux une réponse enthousiaste, loin de là. Mais la vie lui avait donné toutes sortes d'occasions d'apprendre la persévérance. Et déjà à sa naissance, son état de santé était précaire. Et c'est curieux, cette santé précaire va lui permettre quand même de vivre passé 90 ans. Il passera une vie de pénitence épouvantable en plein 20e siècle. C'est une fragilité qui était tout le long de sa vie, une espèce de constante. Et Dieu le gardait vivant, d'une façon, à mon sens, qui tient presque du miracle quand on sait qu'il ne mangeait à peine. Il était le 8e d'une famille de 10 enfants. Son père est mort alors qu'il n'avait que 9 ans et demi. Et quelques années à peine plus tard, quand il avait 12 ans, il a perdu sa mère. Alors imaginez que la famille de ce pauvre jeune Alfred Bessette, ce futur frère André, était très, très pauvre. Mais par contre, il a reçu une bonne formation chrétienne au point de départ. Le frère André a tout d'abord été marqué par la piété de sa mère et son sourire. Paraît-il qu'elle avait un sourire de bonheur qui a toujours frappé le frère André jusqu'à la fin de sa vie. Et elle lui a transmis cette sérénité, cette joie. Et c'est elle aussi qui lui a transmis la dévotion à Saint-Joseph, dit-on. Saint-Joseph avait été choisi comme patron du Canada dès 1624, ce n'est pas d'aujourd'hui. Longtemps avant que une grande partie de nos familles, des Québécois d'origine française, ne soient arrivés ici. Nous sommes arrivés un peu passé, nous, en général, 1642, 1650, 1660. Et prier Saint-Joseph était donc un élément de la culture religieuse depuis des siècles au Québec. Et on rapporte qu'un jour, le petit Alfred Bessette a demandé au curé quelle prière faisait le plus plaisir au bon Dieu. Cette question, bien que naïve, a témoigné de sa volonté de plaire à Dieu. Essayer de plaire à quelqu'un d'autre, c'est bien un des premiers éléments d'une fréquentation quand on fréquente quelqu'un. Hein? On essaie de lui plaire. Et Alfred Bessette, déjà jeune, essayait de fréquenter Dieu. La foi, c'est le résultat, au fond, des fréquentations assidues de Dieu. Quand on fréquente Dieu quotidiennement, notre foi augmente. Et par conséquent, notre espérance et notre charité. Et sa mère, à Alfred Bessette, frère André, elle a donc pavé la route pour ses premiers pas sur le chemin de la foi. Un chemin qui passait d'abord par Jésus, mais aussi par Saint-Joseph, son père, pour lui inséparable. Alfred Bessette, orphelin, a donc été confié à un oncle qui était plutôt dur. Et c'était pénible, alors il a dû apprendre très tôt à voler de ses propres ailes. Hein? Alors il a fait 36 métiers, 36 misères, comme on dit. Oh, les biographes font état de diverses occupations. J'ai relevé qu'il a été garçon de ferme, il a été ferblantier, forgeron, boulanger, cordonnier, et puis, comme on dit, un journalier, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de menus travaux. Il est même allé travailler aux États-Unis pour une courte période de temps. Alors, tous ces emplois-là dépassaient souvent ses forces, hein, le pauvre lui. Mais il avait la réputation d'être un bon travailleur quand même. Il n'avait aucune formation, presque. Sans grande capacité physique non plus. Dans une époque très, très difficile. Alors, sa vie était très pénible. Alors, on le retrouve à l'âge de 25 ans dans un emploi de valet de ferme. S'occuper des animaux, quoi. Et son employeur a constaté qu'il s'était construit un lieu de prière dans l'écurie, où justement il prenait soin des chevaux. Il y avait placé une croix. C'est rare qu'on voit ça, un valet de ferme. Placé une croix dans l'écurie. Ben, tous les soirs, il allait s'agenouiller pour prier. Alors, son employeur en a parlé au curé de la paroisse. Alors, à partir de ce moment-là, ben, le curé a observé de plus en plus ce jeune homme de 25 ans, Alfred Bessette. Il y avait d'autres éléments qui se sont ajoutés à ce tableau, car Alfred portait en secret un cilice. Vous savez ce que c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est une chemise de crin qu'on porte sur la peau par mortification du crin. Ben, c'est extrait du poil rude là, au cou des chevaux. Or, cet objet de mortification peut, pour nous, à notre fin du 20e siècle, ça peut être vu comme l'expression d'une tendance un peu masochiste, mais il faut aller au-delà de toutes ces interprétations plus ou moins psychologiques pour comprendre là, les relations spirituelles, on peut dire les modes de communication qu'on y utilise quand on porte un cilice. Tout ça dépend de l'amour, l'amour de Dieu qu'on a au fond de son cœur. S'il n'y a pas d'amour, ça devient un peu tragique. S'il y a de l'amour, ça devient une immense offrande, pleine de tendresse. C'est tout autre chose. Et de plus, notre Alfred Bessette avait manifesté ouvertement à sa sœur son intention d'entrer en communauté. Alors ces indices, puis de nombreux entretiens entre Alfred puis son curé, ont poussé ce dernier à le présenter au supérieur du collège Saint-Laurent, à Ville-Saint-Laurent, chez les pères de Sainte-Croix. Et c'est en 1870 qu'il est reçu comme postulant à la congrégation de Sainte-Croix. C'est un grand jour. Et la même année, il passe au noviciat, où on lui donne le nom de Frère André. Et l'année 1870, on peut dire qu'elle marque aussi un autre fait marquant pour le Frère André. C'est en 1870 que le pape a proclamé Saint-Joseph patron de l'Église universelle. Est-ce que c'est pas un clin d'œil de Dieu? Pourquoi pas? Et après une année de noviciat, les frères prononçaient des vœux temporaires d'un an chez les frères Sainte-Croix, mais le conseil provincial de la communauté a décidé de ne pas l'admettre, de ne pas admettre le frère André aux vœux temporaires en raison de l'état de sa santé qui laissait présager qu'il ne pourrait pas terminer les 3 années d'engagement pour enfin faire profession, c'est-à-dire s'engager définitivement. Ça me rappelle quand on m'a demandé de me retirer de Saint-Benoît-du-Lac en 1946, on craignait que je n'aie pas la santé. Pourtant, j'ai toujours eu une très bonne santé. Je vais avoir 70 ans et puis je fais 5 conférences par semaine ou 5 causeries. Ça me dérange pas. Curieux, les événements. Alors, cette décision des supérieurs, ça a plongé le frère André dans la tristesse. Comment est-il passé à travers tout ça? C'était un remous intérieur, je sais ce que c'est. C'était une grande déception, que je sais ce que c'est. Mais la souffrance permet la croissance. Si on fait confiance à Dieu qui nous aime, Dieu nous guide toujours, même dans les moments les plus tragiques. Alors, quelques mois plus tard, le nouveau maître des novices a fait une intervention en faveur du frère André, puis l'a souligné au supérieur cette étrange et extraordinaire aptitude à la prière qu'il avait décernée chez le frère André. On lui attribue d'ailleurs cette remarque suivante, que ce nouveau maître des novices aurait dite, « Si ce jeune homme devient incapable de travailler, il saura du moins très bien prier. » Alors, le frère André a été admis à une profession temporaire, c'est-à-dire un engagement temporaire d'un an, qui lui donna ensuite accès à l'émission des vœux perpétuels pour toute sa vie. Quelle joie il a dû ressentir. Et en prononçant ces vœux perpétuels, le frère André, en somme, scellait personnellement son alliance avec Dieu. C'est ça, s'engager comme ça. Sceller, confirmer une alliance avec Dieu. Une alliance qui allait lui en faire voir de toutes les couleurs, évidemment. On l'a nommé tout d'abord portier du collège Notre-Dame en face de la montagne où sera érigé l'oratoire. Tout en lui enseignant d'autres travaux, il faisait aussi des coupes de cheveux aux élèves. Et après, le noviciat, disait-il, « Mes supérieurs m'ont mis à la porte. » Et j'y suis resté, disait-il, le sourire aux lèvres. Alors la porterie lui donnera l'occasion de s'ouvrir au monde, et c'est à la porterie qu'on fait tout et rien. Vous avez déjà vu ça, des portiers dans des institutions. Ils font tout et rien à la fois. On exécute toutes sortes de travaux qui passent presque inaperçus aux yeux des autres. Et le frère André ne ménage pas ses efforts pour accomplir les différentes tâches qui lui sont confiées. Plusieurs d'entre elles sont exténuantes. Mais le frère André, malgré sa santé, tient le coup. Tout comme Saint-Joseph, dans son atelier de charpentier, il y a 2000 ans. Mais son labeur au frère André est obscur. Et alors que certains végétaux ont un besoin, on peut dire, vital de beaucoup de soleil, d'autres, comme les champignons, doivent croître à l'ombre, dit un auteur qui a raconté la vie du frère André, très brièvement. Alors, s'il y en est de même dans la vie spirituelle, il y a des champignons qui croissent à l'ombre, comme dans les cloîtres. Certaines âmes s'épanouissent au grand jour, sous les yeux de tous, tandis que d'autres avancent vers Dieu, comme le frère André, en donnant l'impression de mener une vie insignifiante. Et pendant plusieurs années, c'est dans cette deuxième catégorie que se situera le frère André. Mais ça va changer avec le temps. Hein? L'importance qu'il accorde à la prière, c'est extraordinaire chez lui. Il prie sans cesse. Il reste toujours en contact avec Dieu. Toutes les situations deviennent des occasions de transmettre l'amour de Dieu. Mettons la promenade avec les pensionnaires du collège, la surveillance dans la cour de récréation, le bain des tout-petits, les visites aux pauvres, les rencontres avec les visiteurs, pour n'en nommer que quelques-unes, là. Tout ça, il est toujours avec Dieu. Il présentait Dieu aux autres. Il présentait aussi les autres à Dieu. Et cet aspect de sa vie de prière allait prendre des proportions considérables. Hein? Et une des tâches connexes du portier, bien, c'était de visiter les malades du quartier. Le frère André s'en acquittait, en y ajoutant des petites touches personnelles. Hein? C'était teinté de sa dévotion à Saint-Joseph. Il avait l'habitude d'apporter aux malades, tout le monde s'en est moqué, un petit flacon de l'huile qui brûlait devant la statue de Saint-Joseph. J'en ai, puis je m'en sers, moi, chez moi, puis les gens me disent que je suis un peu malade, mais pourquoi pas? Cette façon de faire, d'ailleurs, n'est pas unique. Hein? Dans les sanctuaires européens, c'était d'usage courant d'utiliser à des fins thérapeutiques l'huile qui brûle près de l'autel. L'huile, je vous l'ai déjà dit, c'est le symbole de la grâce ou de la présence de Dieu. Pensez que dans la Bible, on nous raconte que l'huile coule dans la barbe de Aaron. On fait des onctions à David avec de l'huile, au Saint-Roi David. L'huile est utilisée dans les sacrements. C'est un signe de la présence de Dieu. Et l'huile de Saint-Joseph, c'est un signe de la présence de Dieu par l'intermédiaire de Saint-Joseph. Alors, petit à petit, la nouvelle se répand que le portier du collège Notre-Dame a des dons de guérisseur. Alors là, les malades commencent à venir le rencontrer, mais le collège Notre-Dame est une institution d'enseignement. C'est pas un hôpital. L'affluence de malades n'est pas vue d'un très bon œil par des parents un peu bourgeois de certains élèves, hein, et même par certains religieux de la communauté de Sainte-Croix. C'est normal, hein? Si on avait été là, on aurait trouvé ça un peu curieux, toute cette histoire. Alors là, les parents des élèves ont fait des pressions sur le supérieur afin de faire cesser toutes ces visites-là. Le supérieur a cédé. Il a interdit au frère André de recevoir des malades à la porterie. Alors le frère André a obéi, mais les malades et leurs amis n'avaient pas l'intention de s'en tenir à cette décision-là. Alors pour le frère André, bien, les guérisons n'étaient pas l'élément le plus important de sa relation avec Saint-Joseph. C'est sûr, hein? Cette relation se situait à un autre niveau pour lui. C'était celui de la prière. Il aimait Saint-Joseph. Il disait qu'il n'était que le petit chien de Saint-Joseph. On la connaît, cette expression, elle est très répandue, le petit chien de Saint-Joseph. Hein? Ce langage imagé fait ressortir bien clairement le type de relation qui les unissait. Il y avait peut-être pêché ça chez les Dominicains, qu'on dit Dominicanes, les petits chiens du Seigneur. Alors on dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme, qu'on vante sa fidélité à son maître, eh bien, c'était comme ça. Alors, leur longue amitié s'actualise de bien des manières dans le quotidien. Et l'une d'entre elles, c'est quoi? C'est prier pendant 9 jours Saint-Joseph. On fait des neuvaines. Le fait d'entreprendre une neuvaine exige évidemment une bonne dose de confiance. Il faut accepter de continuer à prier sans avoir des résultats immédiats, hein? Un autre signe de l'amitié que le frère André portait à Saint-Joseph, c'était quoi? C'était la médaille à l'effigie de ce dernier. Pourquoi pas une médaille? C'est comme une petite icône, si on veut. Alors, il recommandait aux gens de porter une médaille de Saint-Joseph. En somme, c'est naturel d'avoir sur soi un objet qui nous rappelle quelqu'un qui nous est cher. Moi, je porte toujours sur moi une photo de mon petit-fils, parce que j'aime bien mon petit-fils, puis je porte toujours aussi la sainte face de Jésus. Et c'est une caractéristique de l'amitié que d'avoir le goût de faire connaître aux autres quelqu'un qu'on aime. Et ce trait est omniprésent dans la vie du frère André. Il veut connaître Saint-Joseph. Et l'affection que le frère André témoigne à Saint-Joseph n'était pas un objet de marchandage. C'est plutôt le fruit d'un amour. Il dit qu'il faut toujours le prier. On le prie quand on est malade, mais ce n'est pas suffisant, il faut le prier tout le temps. Et c'est dans l'acceptation de la volonté de Dieu qu'il retrouve la vraie foi. Le miracle se situe pas uniquement au niveau de la guérison physique d'un malade, mais plutôt, surtout, dans l'augmentation de la foi qu'entraîne le fait d'accepter d'avoir confiance en Dieu. Et c'est ça pour lui. Les miracles, c'est accepter d'avoir confiance en Dieu. Alors le cœur du frère André déborde d'amour pour Saint-Joseph. Et son projet de l'oratoire est une autre façon de concrétiser cet amour. Comme Sainte Thérèse d'Avila, vous qui aimez Sainte Thérèse d'Avila, savez-vous que Sainte Thérèse d'Avila avait une énorme dévotion à Saint-Joseph? Et le frère André était payé de retour, un Saint-Joseph l'a fait sur terre, son chargé d'affaires, si on peut dire. Il lui a donné part à sa puissance d'intercession sur la toute-puissance de Dieu. On compte plus d'ailleurs les guérisons qui sont dues au frère André, c'est immense. Elle lui dégoûtait des doigts, comme dit le père André Legault. Littéralement, oui. Il remet sur pied des malades à l'agonie. Je le répète, c'est vrai, c'est authentique. Il remet sur pied des malades à l'agonie. Il a guéri des gens condamnés par les médecins. Il a raccommodé, comme en se jouant, les ficelles de membres désaxés. Oui, oui. Il y a sa méthode à lui, qui est très spéciale. Alors, il faut multiplier les neuvaines dont je vous ai parlé, le 9 jours de prière. Parfois, elle n'est que partielle. Il va dire, ne cessez pas de prier, dit le frère André avec un petit sourire, ou vous allez perdre le peu que vous avez gagné. Il se montre parfois bourru, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai déjà vu une fois bourru. Ne venez pas m'importuner, allez voir Saint-Joseph, disait-il à un de ses confrères qui était venu lui montrer des yeux, ses yeux malades. Alors, son confrère lui avait dit, « Dans ce cas-là, frère André, je reviendrai quand vous serez de meilleure humeur. » Il est revenu le lendemain. Le frère André l'a frictionné délicatement pendant de longues minutes, et quelques jours plus tard, bien notre malade se remettait au travail et était guéri. Il y a même une visiteuse protestante qui est brusquée par le bon frère, alors elle sort en larmes. Mais tout à coup, à la descente de l'escalier, elle constate sa guérison. Parfois, il guérit à distance, par une simple parole. Parfois aussi, il se rend lui-même auprès des malades. Dans d'autres temps, c'est lui qui provoque les demandes, comme pour cet infirme qui était venu des États-Unis solliciter la guérison de sa sœur et qu'il guérit du même coup par surcroît, il guérit les deux. L'autre qui était resté aux États-Unis guérit au même moment. Les remèdes, eux, sont toujours identiques, ceux qui ont tant fait rire notre chère population un peu prétentieuse, dont moi-même, il y a bien des années. Frottez-vous avec la médaille de Saint-Joseph, imaginez, frottez-vous avec la médaille de Saint-Joseph. Frottez-vous aussi avec un peu d'huile. Or, parfois, il frictionne lui-même. Il dit, mes mains produisent le même effet que la médaille de Saint-Joseph, aboutit-il ingénument. Les malades affluent. Et le petit frère tient ferme. Sa réputation de thaumaturge est devenue universelle. On accourt des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de l'Europe même, pour le voir et être guéri, et toutes les misères humaines, physiques et morales affluent au Mont-Royal. Et les prodiges abondent, à une condition toujours, la confiance en Saint-Joseph, qui intercède auprès de Dieu. Il faut de la foi pour se frictionner avec la médaille ou l'huile de Saint-Joseph, disait le frère André. Oui, il faut de la foi. La présence ou l'absence de cette foi vive chez ceux qui sollicitent une guérison explique le succès ou l'insuccès de leur démarche, sauf les cas où lui, il la voulait provoquer en dépit de tout. On pense à la foi de ce cultivateur blessé par une faucheuse mécanique. Il lui dit « Laissez vos béquilles. Demain, vous reprendrez votre travail. » Et le pauvre homme n'en revient pas. Il s'en retourne clopin clopant. Le lendemain, il se traîne derrière sa charrue. Puis le soir, il demeure confiant, dépit des sarcasmes de sa famille et de ses pieds misérablement enflés. Et le surlendemain, il se lève guéri. Ce sont des miracles authentifiés. La confiance en Saint-Joseph, voilà tout ce qu'il exige à ses clients. Il voudrait tant faire aimer son grand saint. Il ne souffre pas qu'on attribue à sa propre intervention la moindre guérison. Il dit, « Oh, si les gens comprenaient que ce n'est pas moi, c'est Saint-Joseph qui guérit. » Mais au fond de son cœur, il sait bien que c'est Dieu. Il y a des larmes dans la voix parfois quand il voit le manque de compréhension des gens. Quelqu'un lui dit, vous valez mieux que Saint-Joseph. Nous obtenons de vous toutes sortes de faveurs, tandis que Saint-Joseph reste sourd à nos prières. Le pauvre frère André en a fait une maladie d'une parole pareille. Pour lui, c'était comme une sorte de blasphème. Il n'acceptait pas de telles choses. Comment accepter de telles choses? C'est pas possible. Il avait une piété solide, viril, comme dit le père André Legault. C'était une piété vraiment très adulte. La passion demeure le secret de ses plus belles conquêtes, d'ailleurs, la passion de Jésus-Christ. D'ailleurs, la vue de ce petit frère André, qui était tout petit, un petit bonhomme, écrasé dans sa chaise, les yeux baissés, à demi fermés, un crucifix en main, et qui raconte par le détail les souffrances sans nombre de Jésus, cet homme des douleurs. Il raconte les flagellations de Jésus, les fouets, la couronne d'épines dans sa pauvre tête de Jésus, les clous dans les mains, dans les pieds, le martyr de cet écartèlement entre le ciel et la terre pendant trois longues heures, dans la soif, l'abandon puis les blasphèmes. C'est pas un spectacle auquel on puisse rester indifférent quand on voit le frère André raconter des choses comme ça. Et devant cette douleur qu'il partage avec son ami Jésus-Christ, son frère, non pas seulement en figure ou en parole, mais dans toutes les fibres de son être, eh bien, on le voit bien dans les larmes du frère André, son visage est contracté. Tout ça, ça bouleverse les témoins. Les cœurs se brisent, les conversions s'opèrent. D'ailleurs, quand il s'agit de conquérir un pécheur, le frère André y consacre tout le temps voulu. S'il expédie les visiteurs importants qui sont venus par curiosité, jamais il n'a rabroué un pécheur. En face d'une âme qu'il doit ramener à Jésus-Christ, le temps ne compte plus. Alors là, il prend son crucifix, puis il le médite à haute voix, des fois une demi-heure devant le pécheur, une heure même. Il va en parler même une fois devant un ivrogne pendant 2 heures pour le convertir. Il s'exclame, ce sont de très belles paroles, celles d'un saint, ça. Oh, si on aimait le bon Dieu! Il pleure. Si on aimait le bon Dieu comme il nous a aimés. Si on aimait le bon Dieu comme il nous a aimés. Si on pensait que le péché crucifie à nouveau notre Seigneur, puis il sanglotait. Pour bien prier, disait-il, il faut penser à Jésus sur la croix. Impossible d'être distrait quand on voit son frère crucifié. C'est pourquoi je recommande fortement de fréquenter la Sainte Face de Jésus sur le Suaire de Turin, où une image complète de tout le corps de Jésus. Ce sont des sujets de méditation profonde de l'amour de Dieu pour nous. Le frère André n'a peut-être pas la science, mais il a la sagesse. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est pas l'instruction qui compte, c'est la sagesse. c'est pas de savoir mille et mille et mille choses qui comptent. C'est cette sagesse qui vient du cœur de Jésus. Ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est Dieu lui-même qui verse ça dans nos âmes. C'est Jésus qui dit, « Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera lui-même toutes choses. » Et pour entendre sa voix, il faut taire en soi les bruits du monde. Taire les bruits du monde, rester dans le silence avec Dieu. Frère André, toute oreille au souffle de l'Esprit, lui, il a capté l'invisible message de Dieu. On dirait que ses paroles sont directement inspirées, que ça lui vient d'ailleurs d'en haut. Disaient des témoins. Tout ce qui a trait à la passion de Jésus l'attire. Il est d'ailleurs très friand des écrits de Sainte Gertrude, dont je vous ai déjà parlé, de la bienheureuse Catherine Emmerich, dont j'espère vous parler un jour, qui sont de grandes amantes de la passion. Il avait lu la vie d'une converse visitandine, Marie-Marthe Chambon, je suis en train de préparer une émission sur elle, qui était une apôtre de la dévotion aux cinq plaies. Que l'on voit sur le Saint-Suaire de Turin, que l'on voit sur nos crucifix. Il s'en fait donner sur le champ 18 exemplaires et dit pour convertir 18 pécheurs. Avec Marie-Marthe Chambon. Et cet amour éclate surtout dans sa propre dévotion au chemin de la croix. Qu'il fait tous les soirs, harassé, épuisé par les longues heures de bureau, quelle que soit l'heure tardive où il rend de ses courses. Il fait son chemin de croix. Oh mon Dieu! Quel courage! Hein? Où sont ceux qui font ça? Pas moi, en tous les cas. Je trouve ça tellement fantastique. Je m'émerveille devant ces saints. Et je me rends compte que je suis pas grand-chose. Hein? Qui sommes-nous? Hein? Souvent, il amène avec lui son compagnon de voyage. Un employé de l'oratoire qui, presque chaque soir de l'an 1927, un an après ma naissance... Hein? Il est le témoin ému de ses longs entretiens avec Dieu. Il l'a décrit soigneusement, à genoux, le frère André, à genoux sur le dur pavé, près de la table sainte, vous savez, la table sainte où on communiait autrefois à genoux, en face du maître-autel. Eh bien, le frère André passe une heure, les mains jointes, sans appui, immobile, perdu en Dieu. Puis ensuite, il fait son chemin de la croix. Qui ne ressemble en rien à notre course pressée distraite. Faudrait bien que j'essaie d'imiter ça un jour avant de mourir. À chaque station, il s'agenouille longuement. On dirait qu'il souffre lui-même les tortures de la passion, tant ses traits sont crispés par la douleur. Il met près d'une heure à parcourir l'église, et son compagnon, qui est un homme robuste, s'avoue vaincu par ce vieillard. Alors il demeure assis sur un banc, le compagnon. En somme, il dit, comme le curé d'Ars, « Tout nous rappelle la croix. Nous-mêmes, nous sommes faits en forme de croix. Hein? » Au milieu du paganisme contemporain, où Jésus nous apparaît comme une espèce de trouble fête, quelqu'un qui nous prêche des choses qui n'ont pas de sens et qui nous ennuient. Mais la mission du frère André s'avère vraiment impérieuse aujourd'hui. Et quand vous regardez le Mont-Royal, pensez au frère André. Une montagne, ça rappelle aussi le calvaire. Hein? Il était d'ailleurs l'ami du peuple, ce frère André. L'ami d'une foule d'humbles et d'obscurs, de pauvres, de malades. Grand ami des ouvriers. Mon fils Guy avait bien compris ça, combien il aimait aller à l'oratoire. Je l'ai vu souvent à genoux auprès du tombeau du frère André, la tête appuyée contre le tombeau, demandant des grâces, demandant du travail. Les ouvriers, surtout, ont été, en effet, les préférés du frère André. Il y aurait de belles pages à écrire sur l'amour du frère André pour la classe ouvrière. Son saint préféré, son saint charpentier, qui était patron des travailleurs, qui est patron des travailleurs, qui est leur modèle, hein, lui en faisait, on peut dire, une consigne, Il y a été fidèle et sa sympathie pour ses frères de travail, dont il avait connu jadis pour les avoir partagés les ennuis et les misères, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ça se faisait chaque jour de plus en plus pressant. On sait ses alarmes devant la menace communiste. Il disait, on viendrait me chercher et on me ferait mourir en me coupant tout en petits morceaux. Ça ne me ferait rien pourvu que le peuple ne souffre pas. Pourvu que le peuple ne souffre pas. Ça, c'est un cri du cœur, du frère André. Il aimait tellement les gens qu'il acceptait comme une fois à Ottawa. Il était retiré chez un ami. Et puis, il a reçu, paraît-il, 1400 visites dans une seule journée. Des manifestations populaires aussi qu'une paroisse américaine avait organisées spontanément en son honneur. Sans d'ailleurs qu'il en ait le moindre soupçon, il dit à mon arrivée à Jersey City, et c'est le frère André qui racontait ça au père recteur de l'oratoire, il dit la paroisse célébrait justement une grande fête. C'était pas qu'elle célébrait une grande fête, c'est qu'on l'attendait, puis la foule voulait le voir. Et que dire des spectacles du genre de celui de la rue Bienville à Montréal, une après-midi où le pauvre frère évoluait au milieu d'une foule de malades, d'infirmes et d'enfants qu'on lui amenait de tous côtés, et d'instinct, on pense à Jésus, notre maître. Quand une grande multitude de peuple accourue de la Judée, de Jérusalem et de toute la région de Tyr et de Sidon cherchait à le voir, à l'entendre et à le toucher parce qu'il sortait de lui une vertu qui les guérissait tous, c'est ce qu'on lit dans l'Évangile. Mais c'était la même chose avec lui au XXe siècle. Oui, au XXe siècle. J'aimerais mieux promener le diable qu'un saint, grommelait le cocher de Don Bosco, parce qu'il était incapable de se frayer un chemin au milieu des foules qui se massaient sur son passage. Ce grand saint Don Bosco, siècle dernier, et souvent avoueront les conducteurs bénévoles du frère André, il disait, nous devions demander du secours pour pouvoir dégager notre véhicule. C'était la même chose. On a beaucoup parlé des amis du frère André avec raison. Il avait beaucoup d'amis. Un qui l'aimait beaucoup, c'était Mgr Bruchesi, archevêque de Montréal. Il écrivait un jour cette belle chose au sujet du frère André. C'est très beau. À propos du cher frère André, il y a un petit détail que l'on n'a pas rapporté, je crois, mais qui ne manque pas d'intérêt. Le voici. Quand le père Dion vint avec le frère André me parler de l'oratoire projeté au Mont-Royal, je leur fis remarquer qu'il s'agissait d'une entreprise vaste et dispendieuse, et je demandai au bon frère s'il n'éprouvait pas de crainte. Il me répondit que non. Et je lui dis alors, « Mon frère, j'ai une chose à vous demander. Y a-t-il du surnaturel dans ce que vous faites? Croyez-vous avoir eu quelques visions? Le bon Saint-Joseph vous aurait-il fait entendre qu'il voulait un temple sur le Mont-Royal? » Et le frère André me répondit, « Il n'y a rien de tout cela, monseigneur. Je n'ai que ma grande dévotion envers Saint-Joseph. C'est elle qui me guide et me donne une entière confiance. Cette franchise, cette humble et belle simplicité me frappèrent, disait Mgr Bruchesi. En somme, c'était un homme d'une grande humilité, d'une grande simplicité, mais d'une foi immense. Il ne mangeait à peu près rien, vous ai-je dit. Il faut lire qu'il mangeait, comme le curé d'Arsque, que des pommes de terre durant toute la semaine au besoin. C'était absolument phénoménal. Il ne dormait presque pas. Il travaillait sans cesse. On dit, un soir, qu'il est prosterné en prière dans l'allée centrale de l'oratoire, la statue de Saint-Joseph, devenue soudain éblouissante dans l'obscurité, semble s'avancer au-dessus de lui sur une traînée de nuages lumineux. Alors, il y a un ouvrier qui est témoin de la scène. Il est au comble de la surprise et de la crainte. Alors, il pousse le frère sans pouvoir le tirer de sa prière. Il sort de l'église à la course tout blême et tout tremblant, explique la cause de son émoi aux religieux qu'il rencontre. Alors, conduit au père recteur, il raconte de nouveau la vision. Il s'avoue trop ému pour rentrer dans l'église ce soir-là. Alors là, les religieux n'attachent pas d'importance à ce fait, en dépit des protestations énergiques du témoin. Mais un autre soir, comme le frère André s'est attardé dans l'obscurité à sa stalle, là, derrière l'autel. Cette partie du cœur s'éclaire soudain. Une vive lumière l'environne. À 3 ou 4 reprises, un feu en forme d'étoile brille au-dessus de sa tête et le suit pendant le chemin de la croix. Très souvent, un personnage semble l'accompagner à chaque station. Et perdu dans ses prières, le bon frère ne semble pas conscient du phénomène. Ce sont des documents authentiques cités par le père André Legault, qui est un homme sérieux s'il est souriant, mais sérieux, ce curé de Saint-Germain-d'Outremont. Quand on raconte ces choses-là, on pèse ses paroles, il n'a pas écrit ça en vain, il a puisé aux bonnes sources. Alors c'est ce qu'il se produit, moins pour lui que pour nous, ces phénomènes-là. Comme dit le frère, le père Legault, nos yeux qui sont presque aveugles, terreux, ont parfois besoin de ces lumières pour se dessiller, pour s'ouvrir, pour devenir un tout petit peu ces fréquentations du frère André qui peuvent être les nôtres. Pourquoi ne fréquentons-nous pas avec plus de foi nos saints, notre ange gardien, le Christ Jésus et sa mère, et Saint Joseph? Pourquoi pas fréquenter Dieu avec plus de foi, plus d'intimité? Des fréquentations, il en avait de moins désirables. Il avait des fréquentations terribles. Vous direz que ce n'est pas vrai. Mais les témoins sont là pour le bruit que faisait le démon dans sa chambre était terrible, terrible. C'est curieux. J'ose pas trop vous les raconter, mais elles sont vraies. Des témoins. Oh, je vous en raconte une. Un curé en pèlerinage veut un jour rencontrer le frère André, le père recteur de l'oratoire. Il lui dit, rendez-vous dans sa cellule au-dessus de la chapelle. Il sera content de vous recevoir. Vous savez, il y avait sa cellule au-dessus de la petite chapelle. Alors le curé enfile l'étroit escalier qui conduit sous le comble, mais il s'arrête, interdit, et n'ose frapper, car il entend le bruit d'une lutte à l'intérieur. Il entend « Va-t'en, lâche-moi, va-t'en !» Alors le prêtre court raconter le fait au père recteur. « Vous êtes bien sûr que le frère André n'a conduit personne à sa cellule ?» Et le recteur dit « Absolument. » Il vient se retirer seul pour prier, se reposer un peu. Alors le prêtre dit alors cette lutte, ce bruit qui m'a fait peur, c'est bien ce que je croyais. Un combat avec le démon. Vous direz, ça n'a pas de sens au XXe siècle de raconter des histoires comme celle-là, mais je vous assure, elles sont de source sûre. Elles sont de source sûre. En somme, le temps était venu où notre petit frère, malmené par le diable, les privations et les labeurs, s'en irait frapper à la porte du paradis. Alors il était assailli d'une gastrite aiguë, puis on l'a transporté au fond d'un obscur hôpital à Saint-Laurent. Et 3 jours durant, il a souffert. Que je souffre, mon Dieu, que je souffre. Et ce fut tout, et après un silence de 20 heures, prélude de ce grand repos éternel, il s'est éteint au milieu de l'angoisse universelle. C'était le premier mercredi du mois, mercredi de Saint-Joseph, à l'aube de l'Épiphanie, oui, un 6 janvier. Frère André venait de naître à la vie. Il y a eu des funérailles fantastiques dans la crypte de l'oratoire. Le cardinal Villeneuve a célébré les funérailles. Elles ont été aussi célébrées à la cathédrale. C'était fantastique. Et moi, je suis allé avec ma tante Rose entrer dans les grandes processions pour voir le frère André dans sa tombe. En plein hiver, j'avais 9 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions sur le chemin de la Côte des Neiges et ensuite on prenait le chemin de la Reine Marie ou le Queen Mary, comme on dit. Le chemin de la Reine Marie, puis ensuite on se présentait devant l'oratoire et on montait. C'était long, ça prenait des heures. Et en quelques secondes, on passait près de la tombe et on pouvait placer sa main un peu. On ne pouvait pas lui toucher, il était recouvert de verre, d'une vitre. Mais je me souviens de l'avoir vu, ce frère André, pour une dernière fois, la 3e fois. Et ensuite, je suis allé à la cathédrale, mais on ne pouvait pas rentrer. Il y avait tellement de monde, un monde fou. Savez-vous combien nous étions pour voir le frère André dans sa tombe? Un million de personnes sont venues. Un million, ça venait de partout dans le monde. C'était phénoménal. Et à travers les années, ce sont des centaines et des centaines de milliers de personnes qui viennent chaque année. Ce sont des centaines de milliers de miracles qui sont réclamés, qu'on prétend avoir obtenus par l'intercession du frère André. Et le frère André continue toujours du haut du ciel à exaucer les prières de quantité de gens. C'est qu'il a mis en pratique les paroles de Jésus. Bienheureux les pauvres, malheur à vous les riches. Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Où est votre trésor, là est votre cœur. Il s'est fait pauvre et Dieu l'a habité. Il s'est fait aussi plein d'humilité. Ainsi, vous ne devenez petit, comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le ciel. Il est entré dans le ciel, il est bienheureux, et espérons qu'il sera canonisé bientôt. Je vous recommande donc de lire des choses sur le frère André, en particulier cette brochure du père Legault, qui est une des meilleures. Mais je vous recommande aussi cet immense livre de Micheline Lachance, l'histoire de l'obscur portier qui allait accomplir des miracles. Et ici aussi, le miracle de la montagne, n'est-ce pas, de Alden Hatch. Il y a beaucoup d'autres livres et d'autres choses. Et aussi les Fioretti du bienheureux frère André, par Mgr Chimichella, qu'on obtient aux éditions Jésus-Marie et Notre-Temps.